Votre entrée dans la vie active, pensez à préparer votre retraite avec Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Agoraphobe, claustrophobe, aérophobe, peur de la foule, des espaces fermés ou de l'avion, les phobies se comptent par dizaines et en parlant avec notre entourage, on découvre vite ces peurs irrationnelles sont loin d'être exceptionnelles. Certains choisissent de les taire, d'autres de les contourner, mais dans certains cas, l'esquive est impossible et ces phobies provoquent des situations embarrassantes, faites de malaise, de confusion. Ces accès de panique peuvent se révéler particulièrement embarrassants, voire carrément invalidants. Déplacement restreint, isolement. La prise en charge de ces phobies est plurielle. Elle peut passer par des thérapies comportementales, la recherche du traumatisme originel, des exercices de simulation, de la relaxation, parfois même de l'hypnose médicale. Et se débarrasser de ces troubles anxieux est en soi un défi, puisque cela implique de s'y confronter. Et à ces phobies, vous consacrez l'un des chapitres de votre livre « Grave ou pas grave, quand consulter ?» Docteur Chantal Geoffrin-Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, votre livre est publié aux éditions Odile Jacob. En deuxième partie de Priorité Santé, nous retrouverons en ligne de République démocratique du Congo le professeur Samuel Mampounza, neuropsychiatre à l'université de Kinshasa, président de la Société africaine de santé mentale. En fin d'émission, vous retrouverez notre bulletin de santé, tour d'horizon de l'actualité de la semaine avec à la une l'urgence humanitaire et sanitaire dans la région syrienne de la Ghouta orientale. Et puis, procède des faux médicaments reportés d'une dizaine de jours au Bénin. Bien sûr, notre numéro de téléphone pour poser toutes vos questions, pour témoigner, c'est le 33 1 84 22 75 75. Docteur Chantal Geoffrin, ce terme de phobie, on l'entend de plus en plus tous les jours dans le vocabulaire, certainement d'ailleurs parfois à tort. D'abord, comment les définir ? Celle en tout cas qui appelle une prise en charge médicale.
Alors effectivement, je trouve qu'aujourd'hui le terme est utilisé très souvent à tort et à travers. C'est d'ailleurs un peu l'objectif que j'avais en écrivant ce livre, c'est de remettre les choses dans leur contexte, de voir ce qui est grave, ce qui est pathologique et ce qui est tout à fait banal. La différence fondamentale entre la peur et la phobie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la phobie, elle est irrationnelle, elle crée une crise d'angoisse même en l'absence de la situation phobogène et simplement à son évocation, à la différence de la peur banale qui est, je dirais plus, un désagrément. Personne n'a envie d'aller faire les courses au supermarché le samedi après-midi. C'est pas une claustrophobie ni une agoraphobie.
Dans ce cas, on va revenir un petit peu à quelque chose dans l'actualité. La phobie administrative, c'est
oui,
une blague. Mais
c'est
quand même, ne pas avoir envie de remplir des formulaires, c'est naturel.
C'est assez naturel quand vous savez que le fait de remplir ces formulaires va vous obliger ensuite à payer.
Personne
n'a très envie de le
faire. La différence entre la négligence et la phobie. Docteur Chantal Geoffrin, dans votre livre, vous distinguez l'angoisse et l'anxiété. C'est pas forcément évident. Peut-être que les gens font une confusion entre les deux. Pourtant, ce sont deux composantes différentes. Vous pouvez nous expliquer vraiment cette différence entre les deux ?
Oui, alors la différence, elle est assez simple. L'anxiété, c'est la part psychique de la peur. C'est ce qu'on se raconte, c'est ce qu'on a dans la tête, ce qu'on se raconte. Et l'angoisse, ce sont les signes physiques. Et d'ailleurs, parfois, on peut avoir des signes physiques d'angoisse sans avoir la notion de peur. Ce qui est d'ailleurs une source de confusion, parce que vous aidez pas mal de gens. Les urgences, je dirais, sont envahies de gens qui sont convaincus d'avoir un infarctus, parce qu'ils ont des signes d'oppression thoracique, de douleur, de mal à respirer, de malaise. Ils s'imaginent que c'est physique, parce qu'ils n'ont pas de sentiment de peur, c'est-à-dire d'anxiété.
Mais comment ça se fait ? C'est quelque chose qui est refoulé dans ce cas-là, ou c'est quelque chose qui est vécu sans vraiment qu'on sache que c'est quelque chose qui est insupportable ?
Alors, je crois on dirait que... Dans l'attaque de panique, par exemple, la première chose, c'est la mauvaise respiration. Cette mauvaise respiration, le fait qu'on inspire trop, on n'expire pas assez, qui provoque une sensation d'étouffement. Et c'est cette sensation d'étouffement qui peut provoquer l'idée psychique de la peur, qui fait peur. Donc, la dimension psychique est souvent postérieure à la dimension physique. Et parfois même, elle n'existe pas parce que ou alors elle est rattachée à la peur d'un accident somatique, d'un infarctus, d'une embolie, de quelque chose comme ça. Et parce que souvent, quand ces attaques de panique se déclenchent, il n'y a pas d'éléments objectifs de peur, d'éléments rationnels de peur. Quand on est dans une foule, par exemple, des gens qui sont agoraphobes, qui se retrouvent au milieu d'une immense place, ou des gens claustrophobes qui sont enfermés dans une pièce, il n'y a pas de rationalité à cette peur. Donc, ils n'ont pas forcément le sentiment de peur. Et eux sont convaincus que, simplement, cette peur est inconsciente, ils commencent à mal respirer, ils étouffent, et donc ils rattachent le fait, ils disent « j'étouffe parce que je suis dans une pièce fermée ». Donc, les choses sont complètement inversées. C'est pas, ils ne se rendent pas compte que c'est parce qu'ils ont peur d'être dans une pièce fermée qu'ils respirent mal et que donc ils étouffent pour eux.
Il y a une réalité.
Il y a une réalité qui est « j'étouffe ». C'est vrai, c'est vrai. Sauf que c'est pas...
La pièce ne les étouffe pas, en réalité.
Pièce. Il y a de l'air.
Docteur Chantal Geoffrin, ces phobies sont reconnues comme un handicap en France depuis 2005 par l'assurance maladie. Est-ce qu'on a une idée justement de la proportion de la population qui est touchée, concernée en France?
Je crois que c'est absolument impossible d'avoir une idée de la proportion parce que beaucoup de gens ne parlent pas de leur phobie. Ou s'accommodent d'une phobie minime. Je parle par exemple dans mon livre, je raconte l'histoire de cette femme qui avait la phobie des ascenseurs. Elle a vécu à la campagne jusqu'à l'âge de 25 ans. Il n'y avait pas d'ascenseur. Elle était dans une maison de plein pied. Et quand elle est venue à Paris, elle a juste évité de prendre l'ascenseur. Elle n'a jamais imaginé que c'était une maladie. Donc, vous avez beaucoup de gens qui ne parlent pas de leur phobie, soit parce que on relie le fait d'être malade à avoir mal quelque part. Bon, on a peur de l'ascenseur et du métro, on a pas mal.
Alors, il y a une liste incroyable de ces phobies. Plus d'une centaine quand on cherche. Les plus fréquentes, c'est quoi?
Alors, les plus fréquentes, c'est très clairement, c'est la claustrophobie. Alors, la claustrophobie, elle va concerner évidemment le métro, les ascenseurs, le cinéma, toutes les salles fermées, toutes pièces fermées. Dans les plus fréquentes, on a encore en voiture, mais ça rejoint presque la claustrophobie. On est enfermé, toutes les situations d'enfermement en fait.
Mais même des gens qui ont peur des voitures, docteur Chantal Geoffrin, même à l'arrêt. Par contre, il y en a qui ont peur quand le mouvement s'enclenche.
Quand le mouvement s'enclenche, parce que quand le mouvement s'enclenche, on peut plus sortir. Donc le sentiment d'enfermement, la notion de danger, d'être enfermé face à un danger potentiel. Dans l'ascenseur, en fait, c'est la peur que l'ascenseur s'arrête et qu'on soit coincé dans un ascenseur arrêté. L'idée qu'on va manquer d'air, le côté hermétique des ascenseurs à l'heure actuelle, fait que le risque est assez minime.
Bon, il y a quand même une peur de rester bloqué entre des étages.
Mais rester bloqué, c'est pas grave. Si on n'a pas peur d'étouffer.
Docteur Chantal Geoffrin, une autre grande famille de phobies, c'est la peur des animaux. Alors là, c'est très répandu. Mais peut-être, là, tout à l'heure, on parlait des phobies à tort, des gens qui associent en fait la simple crainte d'un animal à une phobie.
Alors, la peur et la phobie, là encore, sont différentes. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des chiens, par exemple, parce qu'un chien, ça mord et parce que le danger, je dirais pas, il n'est pas fréquent, mais il est réel. Il y a un danger réel et ces gens-là vont avoir peur quand ils sont confrontés à un chien qui aboie et qui a l'air menaçant. Ou à tout chien parce qu'ils imaginent qu'il pourrait devenir menaçant. La phobie, ce sont des gens qui ont peur simplement de la simple évocation. Alors là, généralement, derrière, ce ne sont pas les chiens. C'est les phobies, ce sont surtout les rongeurs, les insectes, les araignées, les serpents. Alors pourquoi les serpents? Probablement à cause de cette idée de reptile, quelque chose qu'on ne voit pas.
Silencieux.
De silencieux, d'un contact déplaisant. Le côté les écailles, c'est déplaisant. C'est dangereux. Le serpent est un animal réputé dangereux, donc je pense que c'est tout ça qui alimente cette phobie du serpent.
Il y a aussi peut-être l'histoire, l'histoire de l'humanité, Adam, Ève, le serpent, la menace.
Bah absolument, c'est parce que ces phobies se déclenchent à un âge très variable, mais très souvent, malgré tout, si on va bien chercher, il y a eu un événement dans l'enfance ou quelque chose de similaire qui fait que la peur, qui est une angoisse, une peur de mort, une peur de séparation chez l'enfant, va se fixer sur un animal, une situation quelconque, quelle qu'elle soit. Et puis, un incident à l'âge adulte peut réveiller tout d'un coup cette peur.
Alors ces zoophobies, hein, donc les serpents, très connus, c'est l'arachnophobie. C'est même le titre d'un film américain des années 90. Arachnophobie dont souffre Ron Weasley, l'un des personnages de Harry Potter.
Allons-y.
Quoi ?
Tu as entendu Hagrid ? Suivez les araignées.
Mais elles vont vers la forêt interdite. Pourquoi des araignées ? Pourquoi ça ne pouvait pas être suivez les papillons ?
Scène de Harry Potter réalisée par Chris Columbus. Docteur Chantal Geoffrin, est-ce que quand on crie, quand on voit une araignée, on souffre d'arachnophobie ?
Non.
Ça va, je ne suis pas arachnophobe.
Rassurez-vous, vous n'êtes pas arachnophobe. Et d'ailleurs, je vois que vous entendez parler d'araignées.
Ah non, ça va très bien.
Sans grapper au rideau, donc tout va bien.
Donc c'est la simple évocation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces symptômes, on parlait de suffocation, difficulté à respirer, rythme cardiaque également avec ces faux diagnostics, enfin cette fausse crainte d'un infarctus.
Absolument, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres symptômes, docteur Chantal Geoffrin ?
Alors, dans les autres symptômes, je dirais que un petit peu tout peut se voir. Il y a déjà le sentiment de malaise, le sentiment de perdre le contrôle de la situation, de confusion, de plus savoir où on est, de peur de se donner en spectacle. Ça, c'est important. Dans les signes physiques, il y a la transpiration, qui arrive très souvent, le fait de se mettre à trembler. Il y a tous les signes qu'on peut avoir quand on a peur de quelque chose, en fait.
Vous restez avec nous, hein. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Une auditrice en ligne de Côte d'Ivoire d'Abidjan, c'est Karine. Karine, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Karine.
Voilà, je suis Karine, je vous dis à Abidjan. J'ai 29 ans et moi, la phobie, c'est la phobie des rongeurs.
Alors, comment ça se manifeste ? Comment vous réagissez à la vue ? Ou est-ce que quand on parle de souris ou de rats, rien que d'en parler, eh bien, ça vous fait peur ?
Non, quand on en parle, j'en ai pas peur. Mais dès que j'en aperçois une, automatiquement, la peur s'installe. Et c'est clair que si la souris est passée dans un endroit, je ne passerai pas dans cet endroit-là pendant un bon moment, de peur de la rencontrer à nouveau.
Docteur Chantal, c'est un problème chez vous, j'imagine, docteur Chantal Geoffrin. La peur, on va dire, là, pas de l'évocation avant, mais du souvenir de la souris, c'est un problème ?
Ça peut être effectivement, ça peut s'apparenter à une phobie, quoi. La peur de souvenir. Moi, je vous pose une question. Si vous essayez de vous représenter une souris, par exemple, à 3 mètres de vous, est-ce que vous avez peur ?
Oui.
Simplement en imagination, ça déclenche la peur.
Je ne la supporte même pas. Je supporte même pas la peur du rongeur. Donc du coup, tout ce que je vois qui s'est apparenté à, excusez-moi de parler comme ça, qui a deux dents devant, pour moi automatiquement.
Bon.
Là, ça commence. Ben. Déjà, j'ai l'impression d'avoir la chair de poule. Je me sens pas bien dans ma peau à l'aspect déjà du rongeur, que ce soit ici on rencontre beaucoup de rongeurs quand on est en forêt, en brousse, quand vous avez l'occasion d'y aller. Donc du coup je fais même pas de randonnée parce que j'ai peur d'être écroulée par un rongeur, par une souris, et j'arrive même pas à manger du lapin parce que j'apparente le lapin au rongeur. Donc du coup psychologiquement, c'est un vrai blocage. Et dans mon entourage, ils ont tendance à rire de moi parce qu'ils se demandent, mais attends, j'ai peur d'une souris, une grande personne, une grande dame comme toi qui a encore peur d'une souris.
Docteur Chantal Geoffrin, quand même, ça l'empêche, hein, Karine, de faire des choses dans sa vie de tous les jours.
Donc effectivement, on a tous les signes de la phobie, c'est-à-dire qu'il y a la peur, les manifestations d'angoisse à la simple évocation de la souris, du fait de pouvoir en croiser une, et les phénomènes d'évitement, qui sont effectivement font partie de la définition de la phobie, c'est-à-dire qu'on va éviter tous les endroits, tout ce qui pourrait mettre dans la situation phobogène. Donc là, il y a tous les éléments d'une phobie. Effectivement, le côté dramatique, c'est que souvent les gens, ça fait rire les gens, l'entourage, et qui, au lieu d'être donc de soutenir, d'encourager, d'aider, finalement renforce la phobie et un peu la honte de la phobie.
Alors, on va parler un petit peu plus tard, tout à l'heure dans l'émission, des réponses à y apporter, mais là déjà, sur ce genre de choses ponctuelles, cette peur des animaux, il y a des pistes particulières qui sont privilégiées pour essayer de s'en débarrasser ?
Vraiment, pour essayer de s'en débarrasser, je crois que les thérapies comportementales sont les plus indiquées.
Donc, c'est-à-dire aller vers un...
Aller voir un psychiatre. Les psychiatres savent très bien faire ça.
Et en général, parce que les...
Oser en parler.
Les gens se posent souvent les questions. Ce sont des prises en charge qui durent sur une longue durée ou c'est...
Pas forcément.
Non?
Pas forcément. Ça, quand, le début de la prise en charge, c'est quand même l'apprentissage de la relaxation. C'est-à-dire parce que la relaxation permet d'apprendre à contrôler soi-même les manifestations d'angoisse. À partir du moment où on sait qu'on peut contrôler les manifestations de l'angoisse dès l'apparition des premiers signes, c'est déjà très rassurant. Et donc c'est l'apprentissage de la relaxation, c'est la première phase de la thérapie. Ensuite, c'est la confrontation en imagination à la situation, sous contrôle de relaxation, sous contrôle du psychiatre, pour surtout éviter de renforcer la phobie en provoquant l'angoisse.
Donc on ne peut pas vraiment le faire tout seul.
On ne peut pas le faire tout seul. Je crois qu'il ne faut pas le négliger, parce que ça peut être extrêmement invalidant. Il ne faut pas avoir honte, c'est un symptôme d'une maladie, et ça se soigne.
Ponctuel. Merci très beaucoup. Ponctuel. Merci Karine de cet appel d'Abidjan. On va tout de suite prendre en ligne Marcus, qui est à Madagascar, à Antananarivo. Bonjour Marcus.
Bonjour RFI, bonjour les auditeurs.
On vous écoute Marcus.
Oui, alors moi je voudrais parler de la claustrophobie, vous voyez quand je suis dans ces espaces clos, je sens une impression de suffocation.
Oui, claustrophobie, suffocation, la ligne n'est pas excellente, c'est pour ça que je me permets de répéter. Est-ce que vous arrivez justement à dépasser cette peur ou du coup vous évitez certains espaces, vous évitez certains lieux ?
Eh bien, je ne peux pas éviter les espaces clos parce que ça fait partie de mon travail, c'est quoi je suis enfermé dans des ascenseurs ou des escaliers, des choses comme ça. Alors, j'essaie de maîtriser ma peur, quoi.
Docteur Chantal Geoffrin, justement, essayez de contenir cette angoisse. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de l'exacerber ?
Alors, le risque, c'est de... Le risque de l'exacerber, il existe quand, justement, on n'arrive pas à contrôler. C'est-à-dire que si on se met dans la situation et qu'on a une crise d'angoisse, qu'on n'arrive pas à contrôler, là on va renforcer la phobie. Si on arrive à contrôler comme le fait Marcus, ça fait partie de la thérapie. C'est se confronter à la situation et réussir à contrôler son angoisse. Alors le danger aussi, c'est ce qu'on appelle les mécanismes, mettre en place des mécanismes contraphobiques. C'est-à-dire qu'on va éviter d'être tout seul dans un ascenseur, par exemple. Il faudra toujours être accompagné par quelqu'un.
Il y a des gens qui ont même des sortes d'objets, des gris-gris,
exactement,
pour contourner des la peur.
Si j'ai pas mon gris-gris, mais ensuite on arrive à l'idée que si j'ai pas mon gris-gris, je vais avoir une crise d'angoisse.
Donc il y a une véritable dépendance qui s'installe.
On va créer une dépendance et c'est aussi compliqué. Ensuite, c'est très compliqué à gérer. Essayer de fuir la situation en se plongeant, en se changeant les idées comme font pas mal de gens, c'est-à-dire on se plonge dans un livre, on voit ça en avion par exemple, c'est très amusant. Au moment du décollage, les gens sont très affairés.
Le film aide aussi, hein, docteur Geoffrin, à oublier un peu ce qui se passe.
Que l'avion est en train de décoller parce que justement la peur c'est au décollage ou à l'atterrissage. Les gens se plongent dans des livres, se branchent sur l'écran, surtout fuir la situation. Ça renforce la peur. C'est un mécanisme qui renforce et qui crée une dépendance, et qui crée une nouvelle dépendance.
On va peut-être en parler tout à l'heure, mais peut-être que l'entourage aussi a un rôle à jouer.
Bien sûr, l'entourage a un rôle d'accompagnement, justement, mais qui n'est non pas comme objet contraphobique, mais pour aider. C'est-à-dire, on accompagne, mais on reste à distance. Peu à peu, on augmente la distance. Ensuite, on laisse faire tout seul. L'entourage peut servir de thérapeute, de co-thérapeute.
De co-thérapeute, en tout cas, ne pas avoir honte de ses phobies. Merci beaucoup, Marcus, de cet appel de Madagascar. On va se retrouver dans 3 minutes, hein, toujours en compagnie du docteur Chantal Geoffrin-Leclerc, pour parler des phobies, de leur prise en charge. Le numéro de l'émission, 33 84 22 75 75. C'est...
Priorité santé, Caroline Paré.
Et Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée aux troubles anxieux, aux phobies. Toujours avec nous, docteur Chantal Geoffrin-Leclerc, médecin psychiatre, auteur de Grave ou pas grave, quand consulter, aux éditions Odile Jacob. Docteur Chantal Geoffrin, difficile de ne pas trouver certaines de ces phobies, pour le moins surprenantes, hein, dans la liste de celles que j'ai trouvées. J'ai trouvé phobie des clowns, bon, peur de marcher, peur des champignons. Mais qu'est-ce que c'est, ces phobies? Tout peut être sujet.
Tout peut être sujet à phobie. En arrière-plan, on trouvera toujours l'angoisse de la mort. Sauf dans, dans les phobies scolaires, où on sait que c'est l'angoisse de séparation avec les parents. Phobie scolaire, c'est la séparation avec les parents, c'est la peur de l'abandon. Sinon, c'est toujours quelque part, au fond de tout ça, la peur de la mort. Le champignon peut être vénéneux, peut être mortel. Alors le clown, je ne vois pas très bien, là, honnêtement.
Non, moi non plus. Mais est-ce que pour soigner une phobie, il faut connaître l'origine de cette phobie, ou simplement, on peut soigner le symptôme et pas la cause, docteur Chantal Geoffrin?
Alors, ça a été une longue controverse. Au début des thérapies comportementales, il y a eu un antagonisme entre les psychanalystes et les comportementalistes. Les uns disant, nous, on permet aux gens de revivre, parce qu'une phobie peut être véritablement extrêmement invalidante, et on va les soulager de leurs symptômes, et ils peuvent revivre. Les psychanalystes disant, oui, mais si vous supprimez les symptômes, il va apparaître un autre symptôme. En réalité, c'est pas exact. On a, je crois, très largement dépassé ce stade aujourd'hui. Et les deux types de thérapies peuvent être tout à fait complémentaires. C'est-à-dire qu'on va, les thérapies comportementales vont soigner le symptôme, permettre aux gens de revivre normalement. S'ils veulent aller plus loin et chercher pourquoi cette phobie s'est installée, pourquoi telle phobie plutôt que telle autre, quelle est l'angoisse qui sous-tend tout cela, comment ça s'est organisé dans leur enfance, ils peuvent faire une démarche analytique qui va les aider à comprendre le pourquoi de la phobie. Sachant que la démarche analytique ne soignera pas le symptôme, ou peut-être 15 ans plus tard, c'est un peu long.
Quand on en souffre au quotidien.
Quand on en souffre au quotidien, quand ça va obérer la vie familiale, la vie professionnelle, la vie sociale, on peut peut-être pas attendre tout ce temps-là. Et effectivement, sachant que la thérapie comportementale ne résoudra pas le pourquoi.
Est-ce que certains médecins, docteur Chantal Geoffrin, prescrivent des médicaments, des traitements?
Bien sûr. Les traitements peuvent être une aide transitoire pour affronter la situation dans un premier temps, en sachant qu'il ne s'agit pas de créer une nouvelle dépendance, que l'anxiolytique qu'on va donner ne peut pas être un objet contraphobique. On ne peut pas se contenter... Alors, Sauf si ce sont des phobies très occasionnelles. Je pense à des gens, par exemple, quelqu'un que je connais, phobie de l'avion. Quand on prend l'avion, on prend un petit quart de Lexomil. Ça n'est pas très grave, ça reste très ponctuel. Sauf que généralement, le danger, c'est qu'on commence par prendre un quart de Lexomil au moment du décollage, et puis ensuite on prend un quart de Lexomil avant de monter dans l'avion, et puis ensuite on en prend la veille. Et on va créer une dépendance aux anxiolytiques, et on renforce la phobie à chaque fois. Donc, ça n'est une solution, ça peut être une aide sous contrôle médical.
Vous restez avec nous, docteur Chantal Geoffrin. On part tout de suite pour la République démocratique du Congo.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Samuel Mampounza, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes neuropsychiatre à l'université de Kinshasa, président de la Société africaine de santé mentale. Alors, quelles sont les phobies les plus fréquentes, professeur Mampounza, que vous avez diagnostiquées et prises en charge en consultation?
Alors, d'emblée, je dois vous avouer, madame, que les phobies ne sont pas reconnues traditionnellement comme un problème de santé. Et que donc, les consultations dans ce domaine ne sont pas habituelles. Mais en clinique, effectivement, en consultation même privée, je reçois des personnes qui ont des phobies. Et plus les phobies spécifiques que les phobies sociales. Je comprends que l'Africain, étant un être fonctionnant vers l'extérieur par essence, c'est comme ça que je comprends qu'il y ait moins de phobies sociales que de phobies spécifiques.
Et alors, les phobies spécifiques comme la peur des animaux, par exemple?
Les phobies, les insectes, surtout. cancrena, vers de terre, mais aussi les animaux comme les chiens, les chats. Et voilà les phobies que je retrouve habituellement dans mes consultations.
Et justement, lors de ces consultations, professeur Mampounza, qu'est-ce que vous conseillez, vous? Quelles sont les pistes thérapeutiques que vous proposez à vos patients d'emprunter?
D'abord, je commence par passer un message qui va être diffusé par le malade, par son entourage, que c'est un problème de santé. Parce que beaucoup ne le savent pas, et qu'il y a moyen de trouver une aide, une solution à ce genre de problème. Alors, ce que je conseille habituellement, quand la personne vient dans un état anxieux, un trouble anxieux, notamment une attaque de panique, alors évidemment, il faut parer au plus pressé. Il faut soigner cette attaque de panique avec des médicaments simples qui sont connus, que les spécialistes connaissent, les anxiolytiques. L'alprazolam, par exemple. Je ne sais pas publicité parce que c'est le terme générique. Et je conseille à mes patients un suivi psychothérapeutique. Et moi, personnellement, je procède, et ce que je sais faire, à des techniques comportementales qui consistent à l'affirmation de soi, mais aussi à plonger progressivement la personne dans la situation phobogène, ou celle qui entraîne la phobie. Ça prend quelques séances, et généralement, ça marche.
Docteur Chantal Geoffrin, c'est la même piste thérapeutique que vous empruntez lors de vos consultations à Paris, hein?
Exactement. C'est exactement le même type, parce que, effectivement, je dirais que si les phobies empruntent un petit peu à la culture du pays et à l'actualité, dans leur manifestation, le traitement reste le même. On est d'accord.
Professeur Samuel Mampounza, peut-être la grande différence que vous avez citée, c'est ce sentiment de honte et de refoulement. Et l'important, hein, c'est bien de dire aux personnes qui nous écoutent, il n'y a pas de quoi avoir honte et on peut s'en débarrasser.
Effectivement, il faudrait que le message passe, et je suis sûr, parce que c'est vrai que nous n'avons pas des statistiques, ici, on n'a pas fait un travail d'épidémiologie, si je peux m'exprimer ainsi. Généralement, on estime que plus ou moins 10% des personnes dans leur vie auront connu ces situations de phobie. Nous, ici en Afrique, on n'a pas fait cette étude, même pas en clinique, mais je sais que ça existe. Et que par ignorance, les gens ne savent pas que l'aide, une aide rationnelle, peut être trouvée. Donc c'est bon que nos populations savent que le problème existe, qu'ils ne sont pas les seuls et qu'il y a moyen de trouver une solution.
Merci beaucoup, professeur Samuel Mampounza, neuropsychiatre à l'Université de Kinshasa. Le message est bien passé parce que nous avons des auditeurs, hein, y compris de République démocratique du Congo, d'ailleurs en ligne, puisqu'on a Karine qui est en ligne de Lubumbashi. Bonjour, Karine. Karine, qu'on aura tout à l'heure en ligne, on a Michel. On est au Congo-Brazzaville. Michel qui est en ligne de Pointe-Noire. Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, nous décrire la nature de votre phobie?
Alors, moi, ma phobie, c'est les vitesses. Quand je sors, j'ai une peur terrible. Je me dis que dans une voiture, il suffit que le chauffeur conduise très vite, on risquera de faire un accident. Si bien que quand je suis à l'arrêt de bus pour emprunter le transport en commun, je peux faire 30 à 40 minutes. Je regarde d'abord la tête des chauffeurs. Et une fois que la tête du chauffeur me rassure, je rentre. Mais en cours de chemin, dès que je me rends compte qu'il conduit trop vite, je descends. Je suis obligée, pour atteindre ma distance, je peux emprunter 3 ou 4 bus pour atteindre ma distance. J'ai du mal à sortir, aller voir des amis à cause de tout ça, parce que j'ai vraiment peur. Je me dis qu'on aura un accident. Et ça a commencé depuis 2004, j'ai raté un accident en 2004, donc depuis ce jour-là, j'ai vraiment du mal à m'adapter avec la vitesse, je ne sais pas pourquoi. Je tremble, je pleure, vraiment je suis mal à l'aise, je suis vraiment vraiment mal à l'aise.
Merci Michel pour ce témoignage. Une question, docteur Chantal Geoffrin, est-ce que certaines phobies finalement ne sont pas des stress post-traumatiques qui sont perçus par les personnes comme des phobies? Mais là, il y a eu un accident, il y a eu une terreur, et c'est renouvelé à chaque fois que Michel est confronté à nouveau à cette situation. On peut rapprocher ces deux sentiments, ces deux maladies?
Alors, pas tout à fait, ça se passe pas tout à fait de la même manière. Le stress, parce que le stress post-traumatique se déclenche à distance du traumatisme, il y a une reviviscence permanente, des cauchemars, un certain nombre de choses, et souvent un état dépressif qui n'existe pas dans les phobies. Mais par contre, qu'un événement très précis traumatisant, comme un taxi qui a un accident, comme dans le cas de Michel, peut tout à fait provoquer, à ce moment-là, une phobie.
Il y a des pistes là. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose de particulier, Michel, pour on voit hein, ça lui pose des problèmes dans sa vie quotidienne.
Absolument.
Pour essayer de se réhabituer à prendre les transports.
Je dirais que de la même manière, c'est une thérapie comportementale. On en revient toujours à ça. La peur de Michel, c'est la peur de l'accident, c'est la peur de la mort, et qui a été. Alors, il y avait sans doute un terrain, je dirais, fragile au départ. L'accident a provoqué, a fait une fixation de l'angoisse sur cette peur de l'accident, mais qui est effectivement, je dirais, réelle. Sauf que dans ce qu'elle dit, la notion d'aller trop vite n'est pas une réalité. C'est-à-dire que...
C'est une perception
c'est
qui est
déformée. C'est une perception, je crois que c'est finalement l'angoisse qui monte et qui donne le sentiment que ça va trop vite. Parce que, elle dit, il faut qu'elle change d'autobus plusieurs fois. Pourquoi d'en changer? Parce que c'est le temps de laisser tomber l'angoisse. Un chauffeur ne va pas forcément plus vite au bout de 10 minutes que au départ. Donc
surtout s'il doit s'arrêter aux arrêts.
Surtout s'il s'arrête. Donc c'est la montée de l'angoisse qui provoque ce sentiment de trop vite. Et là, je crois qu'une thérapie comportementale pourrait être extrêmement efficace.
D'accord, bah ce conseil à Michel voilà. de Pointe-Noire. Merci ouais. beaucoup de nous avoir appelés. On va maintenant donner la parole à Pascal. Pascal qui nous appelle du Burkina Faso, d'Ouagadougou. Bonjour Pascal.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi j'ai un problème avec, je dirais, la hauteur. Parce que quand je regarde par exemple un film qui on montre une scène où on a l'acteur sur un toit ou enfin une perspective qui montre que bon la personne est en hauteur, même assis dans mon salon, dans mon canapé, je ne sens plus mes jambes.
Alors, ce témoignage de Pascal, des gens qui ont des vertiges, le vertige, c'est fréquent. Oui. Mais là, ce n'est pas lui, c'est pas son corps qui est impliqué, c'est la vision de quelqu'un d'autre. Est-ce que dans ce cas-là, docteur Chantal Geoffroy, on peut parler d'une phobie?
Oui, on peut parler d'une phobie. Alors, c'est un peu particulier, effectivement, la phobie de la hauteur, parce que, vraisemblablement, ce qu'on pense, c'est qu'initialement, il y a un problème de vue et d'oreille interne et de coordination, qui fait que quand on est effectivement dans la situation, il y a ce problème d'oreille interne, de coordination vue-oreille interne, provoque un sentiment de malaise. Et c'est autour de ce sentiment de malaise réel, physique, dans la situation, c'est là-dessus que va se greffer la phobie. C'est-à-dire qu'ensuite, il suffira de s'imaginer ou de voir cette situation, quelqu'un dans cette situation-là, pour ressentir les mêmes symptômes que lorsqu'on était soi-même dans la situation. Et c'est en ça que ça devient une phobie. Parce que la simple fait de l'imaginer ou de le voir vécu par quelqu'un d'autre provoque les mêmes symptômes. C'est la définition de la phobie.
Donc l'explication est donnée maintenant, si on veut donner un conseil à Pascal.
Un conseil à Pascal, c'est toujours pareil. C'est un symptôme qui doit être soigné, qui peut être soigné, il faut le soigner. Et parfois d'ailleurs, il suffit... J'ai vu un cas très particulier d'une phobie de hauteur comme ça qui a disparu après une intervention
sur l'oreille interne, peut-être
sur l'œil.
Sur l'œil, carrément. Donc là, l'organe de perception.
L'organe de perception. Mais voilà, et encore faut-il qu'il y ait un problème. C'est un cas un petit peu particulier, mais une thérapie ciblée sur le symptôme, c'est-à-dire sur la peur, peut être tout à fait efficace là encore. Encore une fois, on ne peut pas le faire soi-même. Il faut avoir le courage de faire la démarche, d'aller voir un thérapeute. C'est pas toujours facile, mais ça peut vraiment beaucoup aider.
On n'a pas toujours non plus assez thérapeutes partout dans le monde.
On n'a pas de thérapeute, on n'a pas la disponibilité, on trouve ça un peu ridicule, on dit que ça vaut pas le coup. Si, ça vaut la peine.
Ça vaut la peine. Voilà, Pascal, pour ce conseil. Et on va passer la parole à Ousmane. Ousmane nous appelle du Cameroun. Bonjour, Ousmane.
Bonjour, madame.
On vous écoute.
Oui, en fait, je souffre de la phobie sociale depuis toujours. En fait, j'ai toujours eu de difficultés à parler devant des gens, à rencontrer de nouvelles personnes, des personnalités. À chaque fois que je suis confronté à ce type de situation, je tremble tellement que je perds tout équilibre. Je suis incapable de dire le moindre bonjour. Je peux rien, je tremble et du coup, j'abandonne.
Et là, par exemple, quand vous nous parlez au téléphone, est-ce que vous vous sentez terrorisé ou c'est simplement quand vous êtes confronté physiquement à ces personnes?
Physiquement, beaucoup plus.
Beaucoup plus. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Ousmane, docteur Chantal Geoffrin? C'est vraiment très invalidant.
C'est extrêmement invalidant. Ça peut remettre en jeu toute la vie, toute la vie de quelqu'un, parce qu'effectivement, un étudiant qui ne peut pas passer d'examen, oro en particulier, qui ne peut pas passer un entretien d'embauche, qui ne peut pas travailler avec des collègues, c'est extrêmement invalidant. Je dirais que c'est la phobie sociale, c'est la timidité poussée à son extrême et qui fait qu'on fuit toute situation de contact avec les autres. Alors là encore, les thérapies, j'avais écrit avec le docteur La Manière un premier livre qui est « Je n'ai plus peur du jugement des autres ». On écrit ça au cours de... Ça se soigne en groupe, pas forcément immédiatement, ce sont des thérapies comportementales qui se soignent éventuellement en individuel si la terreur du groupe est trop importante, mais ensuite, dans des groupes d'affirmation de soi, apprendre à prendre confiance vis-à-vis des autres.
Et donc là, le rôle de l'entourage, on en parlait tout à l'heure, c'est fondamental.
Donner confiance. Donner confiance, montrer qu'on peut être, se montrer tel qu'on est, déjà oser dire qu'on est timide, affronter quelqu'un en disant « je suis extrêmement timide, j'ai très peur », et ben ça va déjà avoir moins peur.
Parce qu'on va avoir moins peur du jugement qu'il a de nous.
Alors que si on essaie de masquer le fait d'avoir peur, c'est encore pire.
Voilà Ousmane pour ce conseil, ce premier conseil. Hein, si après vous avez les moyens, bien sûr, d'entamer une thérapie, c'est déjà de prévenir les gens à qui vous adressez que vous craignez de leur parler. Et ça sera certainement donc plus facile, pas forcément tout de suite, mais au moins dans un premier temps. On va prendre un dernier auditeur en ligne. Cet auditeur, c'est Vincent. Il nous appelle du Tchad, de N'Djamena. Bonjour Vincent.
Bonjour Caroline Paré.
On vous
Bonjour
écoute.
Bonjour les auditeurs.
On vous écoute Vincent.
Ok, au fait, j'étais victime d'une morsure de serpent il y a de cela 7 ans. Bien, avant tout moment, surtout la nuit, quand j'aperçois un cordon, cela me renvoie à mon passé. Parfois je sursaute, parfois je fuis, tout ça. Et ce réflexe est toujours fréquent dans ma vie. Mais je me demande, Madame Caroline Paré, cette phobie disparaîtra un jour ou bien faut-il aller consulter pour avoir des produits? Quelles sont mes préoccupations?
Docteur Chantal Geoffrin, c'est vous qui allez donner un conseil à Vincent. Il a peur des serpents. Oui. Il a peur même des objets qui ressemblent aux serpents. Qu'est-ce qu'il peut faire?
Je dirais que ça ressemble un petit peu au cas de Michel qui est à la suite d'un accident dans un taxi, a eu peur de la vitesse. Vincent, après avoir été mordu par un serpent, a peur en fait d'une nouvelle morsure de serpent. La peur est rationnelle. Par contre, le fait d'avoir peur effectivement d'un cordon est irrationnel.
Et d'y penser la nuit,
est irrationnel. Donc, c'est là où on est dans la phobie. On n'est plus dans le stress post-traumatique, on est dans la phobie. Et la phobie se soigne comme toutes les phobies. Je pense que Vincent, si Vincent attend peut-être qu'à la longue, ça finira par passer, je ne le crois pas. J'ai peur qu'au contraire, souvent, ces phobies s'accroissent.
Mais en même temps, il pose la question, est-ce que je dois consulter? C'est qu'il a déjà consulter. Une démarche positive.
Il y a une démarche tout à fait positive et je crois qu'il faut consulter parce que peut-être que ça disparaîtra dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. À quoi bon se gâcher la vie pendant 10 ans quand on peut aller mieux très vite?
Voilà Vincent pour ce conseil. On arrive à notre conclusion, docteur Chantal Geoffrin. Est-ce que la multiplication des phobies, c'est un signe du temps face à un monde qui angoisse? Est-ce que ça colle finalement à l'air du temps?
Je pense qu'effectivement, le monde est angoissant et que cette angoisse, cette angoisse globale, général va se fixer sur des objets très particuliers ou sur des situations très particulières et que ça... Alors il y a ça qui explique effectivement la multiplication des phobies et puis il y a aussi le fait qu'on commence à en parler.
Et c'est moins honteux.
C'est moins honteux. on commence à beaucoup dire que c'est un symptôme, ça se soigne, il faut faire quelque chose. Ça n'est plus stigmatisé comme ça aurait pu l'être il y a 30 ans. Et c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup plus. Parce que maintenant, on le sait, on les voit, on en parle.
On en parle. Merci beaucoup, docteur Chantal Geoffrin. On a insisté au cours de cette émission sur l'importance de l'attitude, du rôle de l'entourage dans tout ça. Ne pas se moquer, au contraire, être à l'écoute et encourager justement les gens à en parler. Merci de nous avoir éclairé sur les phobies. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre, auteur du livre « Grave ou pas grave, quand consulter ?» publié aux éditions Odile Jacob.
Bulletin de santé.
On se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine, un bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Juliette Rangeval, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
La situation en Syrie, pour commencer avec Juliette, l'accès à l'aide humanitaire en question, aide d'urgence et aussi bien sûr l'évacuation des blessés. Après d'intenses bombardements de l'armée syrienne sur la région de la Ghouta orientale, cette région dont les infrastructures sanitaires sont touchées de plein fouet.
Des raids d'une grande violence. Ces derniers jours, 13 hôpitaux où Médecins sans frontières travaillaient ont été bombardés dans cette zone voisine de Damas. MSF a recensé 237 morts et 1285 blessés, victimes de ces bombardements intensifs seulement pour les trois premiers jours de la semaine.
Et le coordinateur régional du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU pour la Syrie a dénoncé ces attaques qui visent précisément des hôpitaux.
Oui, et qui privent des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants des services de santé de base. Dans cette enclave où 400 000 civils sont toujours pris au piège, des populations assiégées, privées aussi d'aide humanitaire, comme en témoigne le docteur Mohamed Katoub, qui est originaire de cette région.
Deux des hôpitaux sont totalement hors service. D'autres ont suspendu leurs opérations pour reconstruire les structures détruites à cause des attaques ou pour trouver d'autres bâtiments à utiliser. Les quelques hôpitaux qui fonctionnent sont complètement saturés. Les équipes médicales travaillent 24 heures par jour et il leur est presque impossible de trouver du temps pour se reposer. Certains patients souffrent de maladies chroniques et nous ne disposons pas des traitements nécessaires pour les soigner. Par exemple, notre unité de dialyse n'a pratiquement plus aucun approvisionnement et peut difficilement travailler. Nous avons 30 patients atteints d'insuffisance rénale qui n'ont plus accès au traitement. C'est une situation terrible que les équipes médicales sont en train d'affronter.
Le docteur Mohamed Katoub, médecin syrien originaire de la Ghouta orientale, joint par Fausto Mouns.
Juliette, en Ouganda, ce sont des réfugiés venus de République démocratique du Congo qui sont frappés par une épidémie de diarrhée aiguë.
424 cas, 26 morts en l'espace de 3 jours entre le 15 et le 18 février. C'est ce que rapporte le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Ces civils font partie des plus de 27 000 Congolais qui, depuis le 1er janvier, ont traversé le lac Albert pour fuir les violences dans l'Ituri et se réfugier en Ouganda.
Et l'Afrique du Sud, elle, eh bien, elle est confrontée à une épidémie de listériose. L'infection alimentaire a tué 172 personnes depuis un peu plus d'un an.
Et la pire épidémie du genre, d'après le gouvernement sud-africain, 915 cas confirmés et donc parmi eux 172 mortels, surtout dans la région de Johannesburg et de Pretoria. Jusqu'à présent, la source de l'épidémie n'est pas identifiée.
D'où ce rappel des règles d'hygiène essentielles pour éviter la contamination, un lavage régulier des mains et la cuisson à forte température des aliments. Au Bénin, c'est un procès sans précédent sur les faux médicaments qui va reprendre. Ce sera le 6 mars à Cotonou.
Oui Caroline, la première audience, c'était mercredi dernier. Le procès reprendra donc dans 9 jours à la demande des parties civiles. Parmi les accusés, des responsables des compagnies béninoises qui commercialisent ces médicaments.
Oui, 10 prévenus poursuivis, Juliette, pour vente de médicaments falsifiés, exposition, détention en vue de vente, mise en vente, vente de substances médicamenteuses falsifiées.
Et au cours des 12 derniers mois, des dizaines de tonnes de faux médicaments ont été saisis dans le pays. Début décembre, la police avait retrouvé des centaines de cartons de médicaments au domicile d'un député de l'opposition, Atao Inouo, qui depuis reste introuvable.
On reparle du bras de fer autour du brevet d'une molécule contre le paludisme.
Brevet déposé par l'Institut de recherche pour le développement et approuvé par l'Office européen des brevets, il concerne un principe actif issu du feuillage d'un arbuste exotique, le Quassia amara, utilisé depuis toujours par les populations guyanaises pour lutter contre le paludisme.
Et la Fondation France Liberté dénonce, comme en 2016, un pillage du savoir traditionnel.
Et accuse à nouveau l'IRD de biopiraterie. Accusation récusée par l'établissement public de recherche et son patron, lui, affirme vouloir partager de façon strictement égalitaire les éventuels avantages liés à ce brevet.
Une aide d'urgence a été débloquée pour renflouer les comptes des hôpitaux de Marseille.
Oui, 9 millions d'euros pour la PHM, troisième groupe hospitalier de France, qui est lourdement endetté, ce qui fait craindre au syndicat des suppressions de personnel en échange d'un futur plan de modernisation.
Et pour refermer ce bulletin de santé, Juliette, une étude sur les légumes les plus pollués en France.
Et il s'agit de végétaux issus de l'agriculture traditionnelle, non bio. C'est l'ONG Génération Future qui a rédigé ce rapport et qui, il est important de le préciser, milite contre les pesticides. D'après cette étude, près des trois quarts des fruits et 41% des légumes portent des traces de pesticides quantifiables. Et les plus contaminés sont le raisin et le céleri branche, viennent ensuite les clémentines et les cerises.
Merci beaucoup, Juliette Rangeval, et à bientôt pour un nouveau bulletin de santé. Priorité santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. Lundi, on va parler des émotions. Comment les identifier, comment les gérer. Le numéro pour vos témoignages et bien sûr toutes vos questions, c'est le 33 84 22 75 75. Pour écouter, Priorité santé, RFI.fr, rubrique émission. À lundi.
C'était Priorité santé avec Suno Assurance qui assure votre retraite et vous invite à la préparer efficacement dès aujourd'hui. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.